Afrique. À la prochaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Salut à toutes et à tous. Merci de faire le choix de VOA Afrique pour vous informer et vous divertir. À ce micro, je suis Mouhamadou Oumfa, depuis le studio 9 de VOA Washington, pour vous présenter à votre avis l'émission interactive qui vous permet de partager votre point de vue sur les affaires du monde. Aujourd'hui, nous parlons des langues maternelles au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. La langue maternelle est la première langue apprise à la maison dans l'enfance. Dans les familles, les parents sont parfois divisés quand il s'agit de choisir la première langue pour les enfants, la langue maternelle du père, de la mère, de la localité dans laquelle l'enfant est né, la langue utilisée à l'école. L'UNESCO encourage et promeut l'éducation multilingue qui commence dans la langue que l'apprenant maîtrise le mieux, puis introduit progressivement d'autres langues. Cette approche permet aux apprenants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement de combler le fossé entre la maison et l'école. Qu'en pensez-vous? C'est la question aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires et coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci aussi à ceux qui nous ont envoyé des messages vocaux sur le numéro WhatsApp de l'émission, +1 202 297 60 89. Et pour participer en direct, vous pouvez appeler le 001 202 205 26 33. Alors, on a un appel qui nous vient donc de Yamoussoukro. Youssouf Ouedraogo, un fidèle auditeur et un habitué de cette émission. Salut Youssouf.
Salut Mamadou, à toute la rédaction, aux auditeurs, auditrices.
Très bien. Aujourd'hui, hier, c'était la journée internationale de la langue maternelle. C'est donc le sujet aujourd'hui. Première question, Youssouf. Quelle est la langue que vous parlez chez vous en famille?
Alors, moi, j'ai la chance quand même de parler pratiquement 3 à 4 langues. La première langue, c'est bien entendu le moré, la langue d'origine. Ensuite, il y a le baoulé, qui est une langue locale en Côte d'Ivoire ici, et puis le malinké, qui est parlé un peu partout dans la sous-région, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et même au Niger.
Mm-hmm. Voilà. Et ça se passe comment, l'éducation aux langues, pendant l'enfance? On vous a d'abord appris une langue. Comment ça s'est passé pour que vous parliez plusieurs langues, Youssouf?
Alors, au départ, c'était pas aussi facile vu l'environnement. Quand vous grandissez dans ce qu'on appelle ici les sous-quartiers, et vous grandissez dans un environnement où c'est la langue la plus parlée qui est vraiment prisée par tous les enfants, tous les apprenants. Mmh. Après, quand l'éducation classique commence, là, on commence à apprendre le français, et puis au bout d'un moment, on a tendance à carrément oublier sa langue maternelle. Sans Toutefois qu'on n'a pas vraiment le concours des parents, ça devient un peu difficile. Et voilà comment moi j'ai eu la chance quand même d'apprendre ça. Et j'ai visité les pays comme le Burkina à plusieurs reprises, le Mali également. Et j'ai beaucoup sillonné la Côte d'Ivoire aussi. Ça m'a permis d'aller vraiment à la racine pour comprendre un peu. Parce que vous savez, n'est pas sans savoir quand même que chaque langue correspond quand même à une culture africaine.
Exactement. Alors, souvent, je le disais en introduction, souvent dans les foyers, dans les ménages, les parents sont divisés. Parfois, la mère parle une langue, maîtrise mieux une langue, le père une autre. À l'école, on enseigne une autre langue. Et puis même au quartier, hein, comme tu le disais, Youssouf, il y a une autre langue qui est parlée. Comment est-ce que les choix s'opèrent selon vous? Est-ce que on choisit la langue du père, on choisit la langue de la mère, on choisit d'abord d'enseigner la langue qui sera apprise à l'école pour faciliter l'intégration de l'enfant dans la société scolaire? Comment se font les choix selon vous, et quel choix feriez-vous si vous étiez parent?
Mamadou, moi je pense que le plus important, par exemple moi, je suis peut-être l'exemple parfait. Comme je l'ai dit, je parle le moré, le malinké et autres, mais la maman, la mère de mes enfants parle typiquement le malinké. Et au début, les enfants, chacun de son côté, essaie d'inculquer ce qu'il connaît au mieux aux enfants. Et ça marche très bien. Les enfants parlent aussi bien le malinké, le moré également. Et de toutes les façons, apprendre le français, comme je l'ai dit, à travers l'éducation classique, ça va arriver tôt ou tard. Toutefois que l'éducation serait vraiment une priorité pour les parents, bien entendu. Ça veut dire aussi, moi je pense que la civilisation a longtemps oublié que nous sommes le berceau de l'humanité. Et ce n'est pas rien. C'est donc pour moi une approche vraiment pragmatique que l'UNESCO envisage là, donc raisonnable, vu que la civilisation africaine est presque là restée donc sous l'emprise de la domination coloniale, reléguant ainsi l'Afrique en une culture linguistique, je dirais, corrompue, parce que dépouillée de ses valeurs, donc méconnue pour ses propres enfants et le reste du monde. C'est bien vraiment d'enseigner ou de célébrer vraiment, par exemple, la francophonie, par exemple, et bien d'autres cultures ici en Afrique. Mais je pense que c'est encore vraiment mieux, que je dirais, vital même de promouvoir le panafricanisme linguistique et donc culturel ici et vraiment ailleurs.
Justement,
Évidemment,
Youssouf,
les obstacles, hein.
avant de vous laisser partir, j'allais vous poser cette question. On fait la promotion des langues, généralement les dialectes, des langues locales, mais dans certains pays, vous avez 300, 200, 100 langues qui existent. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est facile de promouvoir une sorte de panafricanisme linguistique?
Je pense que quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte plus de 60 ethnies, le Burkina, qui compte également plus de 60 ethnies, c'est un peu partout dans la sous-région, on peut pas évidemment apprendre toutes les langues dans un système éducatif classique qu'on veut incorporer, n'est-ce pas, ces langues-là. Mais je dis que dans ces pays, on peut quand même utiliser, par exemple, deux ou trois langues conventionnel, j'allais dire, sans friser vraiment les minorités linguistiques. Je vois aussi qu'en RDC, un pays le plus grand pays d'Afrique
Tout
comme
à
la
fait.
RDC, où le Swahili est quand même enseigné et ça marche bien. Là aussi, je pense que les obstacles, cependant, c'est la capacité de nos États même à adapter ce système éducatif classique à cette exigence morale. Quand on sait que nombre d'enseignants ne maîtrisent pas forcément aussi leur propre langue maternelle. C'est vraiment donc un défi, et un défi devant lequel il faut vraiment se donner les moyens adaptés pour atteindre, n'est-ce pas, les objectifs de cette ambition qu'engage l'UNESCO vraiment à juste titre, même si je pense que c'est un peu tard. Mais comme on le dit, il n'est jamais bien tard pour bien faire. Ça va permettre à l'Afrique de retrouver son identité culturelle à travers le monde et enseigner cette identité-là.
Voilà. Merci beaucoup, Youssouf Ouédraogo. C'est toujours un plaisir de vous avoir, de vous écouter avec vos analyses très excellentes que nous apprécions beaucoup ici à VOA. Merci une fois encore d'avoir participé. Il y a deux autres auditeurs qui attendent. Ce sont aussi des fidèles avec des interventions pertinentes tous les jours. Charles Bazema et Christian Dirabé. On va commencer par Charles Bazema. Charles, bienvenue.
Oui, bonsoir, Amadou, bonsoir, Youssouf qui vient de partir, Christian qui nous écoute.
Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de la langue maternelle, la première langue qu'on apprend aux enfants, généralement à la maison. Ça peut être des dialectes, ça peut être des langues officielles que les parents choisissent d'apprendre à leurs enfants parce qu'ils vont aller à l'école immédiatement. Alors, Charles, vous, quelle est la première langue que vous avez appris à parler, pour commencer par là?
Oui. Voilà. Excusez-moi, étant né en Côte d'Ivoire, voilà, j'ai dans la localité où j'étais, comme disait M. Youssouf, c'était le malinké. Donc, j'ai grandi avec le malinké. Voilà, quand il s'est arrivé au Burkina, voilà, j'ai appris ma langue maternelle qui est le grossi. Voilà, le grossi. Et bon, comme le Burkina, voilà, je comprends un peu la langue morée, la langue de Youssouf Ouédraogo. Voilà, celui-ci, bon, voilà, je navigue en trois langues, mais je m'en sors très bien. Mais mes parents, eux, bon, quand on était petit, quand on était plus en Côte d'Ivoire, voilà, nos parents nous parlaient à notre langue, et la langue de Youssouf, mais nous, on n'arrivait pas à parler la langue, mais on attendait ce qu'ils voulaient dire. Mais quand ils nous parlent, bon, on partait, si c'est une commission, on part faire, et voilà, et on revient, mais on ne parlait pas. Voilà, on parlait que la langue malinké.
Justement.
Et en plus de ça, bon, il y a un peu de français qui était là, mais on parlait de plus la langue malinké. Parce qu'on était dans un quartier où presque tout le monde était, voilà, de Gula et autres. Voilà, c'était ça.
Oui, justement, Charles Bazema, vous relevez là un très bon point. Parfois, les enfants à la maison, même si les parents parlent la langue, ils n'apprennent pas, ils ne pratiquent pas, et ce qui fait qu'ils peuvent comprendre ce qui se dit dans la langue du père ou de la mère, mais ils n'arrivent pas à communiquer, et ce qui fait d'ailleurs que aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui ont pour première langue le français ou l'anglais. Cela est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que vous pensez que les parents se disent qu'il est mieux d'apprendre la langue qui va aider à l'école, au travail? Ou quel est votre avis?
Oui, moi je crois que là-bas, on peut voir de l'autre côté. Puis par exemple, moi je vais prendre moi, mon cas personnel, parce que mon père n'était pas toujours à la maison. Il était au service, c'est pas le dimanche. Et lui, il nous parlait la langue ici avec nous. Mm. Il n'a jamais parlé le français avec nous, non. Il parlait que la langue française et la langue grosso modo. Maintenant, c'est ma mère, comme elle aussi, elle est une femme, elle cause avec les femmes malinquées et autres là, mais elle nous parlait en langue malinquée. Voilà, puisque on était plus collé à elle que nos papas. Donc, c'est grâce à elle qu'on parlait la langue malinquée. Et chaque fois, c'était comme cela. Mais le père, quand il est là, il nous parle en langue grosso. Tu comprends, tu comprends pas, t'es obligé, voilà, c'est ça. Sinon, il n'y avait pas complications. Maintenant, moi, je crois que, comme disait M. Le Drago, moi, je crois qu'on pouvait revoir le système. Par exemple, au Burkina, on a plus de 60 ethnies, mais il y a trois langues qui sont la plus parlée. Par exemple, la langue Moré, la langue de Fufude, et puis, le Djula. Maintenant, moi, je crois que, par exemple, on peut commencer à essayer ça dans les classes. Je crois que ça peut nous aider. C'est vrai, il y aura des gens qui seront frustrés parce qu'ils vont dire que pourquoi on a délaissé les langues. Mais moi, je crois que ça ne doit pas empêcher. Et avec la sensibilisation et en essayant d'expliquer à les gens que nous voulons et rattraper le temps passé. Quand je dis rattraper le temps passé, vous voyez que l'Africain est démodé. Il ne sait plus là où il est. Voilà, il est tantôt français, il est tantôt anglais, il est tantôt... On ne sait pas. Il a perdu sa culture au détriment de d'autres cultures. Voilà, notre manière de nous habiller, notre manière de nous parler. Voilà, moi, et puis encore, il y a un moment donné, quand moi je faisais le corps primaire en Côte d'Ivoire, une fois quand vous parlez votre langue à l'école, immédiatement, il y avait une chaîne là, d'os, entourée d'os. On mettait dans votre cou et on vous mettait en genou, en plein cou, et les gens vous moquaient de vous. Donc ça poussait les gens à ne plus parler les langues à l'école. Et voilà pourquoi actuellement, moi je crois que j'envie les Congolais. À vrai dire, moi j'envie les Congolais parce que tu ne peux pas parler avec un Congolais deux ou trois sans qu'il parle la langue lingala.
Ouais.
Avec toi. Il parle le français, mais tu sens que c'est lingala, il attend de nous parler. Voilà pourquoi moi je dis qu'on peut faire quelque chose. Mais pour le moment, nos autorités ont travaillé aussi à pousser les gens à ne pas parler les langues. Parce que ce que je vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous parlez la langue, votre langue à l'école, immédiatement, on vous mettait en genou, on mettait une chaîne dans votre cou. Donc, ça poussait les gens à ne pas parler. On parlait que la langue française. Et la langue française, et à la maison, c'était le malinké. Mais quand moi je suis venu au Burkina, je n'avais pas le choix que de parler ma langue. Parce que j'étais au village, personne ne parlait le Djula. Donc j'étais obligé d'apprendre. J'attendais, mais pour prononcer les mots, c'était compliqué. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, maintenant, bon, je ne peux pas dire que je parle 100% la langue grossie. Mais voilà, je m'en sors mieux. Et je crois que les enfants aussi, voilà, eux aussi, c'est la langue grossie. Voilà, eux aussi, ils profitent de la langue grossie aussi.
Oui, dernière question avant de vous laisser partir, Charles Bazema. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que il n'y a pas un système au niveau de, des gouvernements et des États pour promouvoir les langues locales? Par exemple, quelqu'un se dit va se dire que je vais aller à l'école, ça ne me servira à rien. Je vais travailler, ça ne me servira à rien. Est-ce qu'il ne faut pas, il n'y a pas moyen de mettre sur pied un système au niveau des États, par exemple au niveau des recrutements, accorder des avantages, hein, à certains qui parlent certaines langues? Est-ce que ça ne permettrait pas, par exemple, de promouvoir ces langues-là qui souvent ne servent pas à grand-chose sur le plan professionnel et scolaire?
Bon, moi, je crois que c'est... Bon, tu sais, on a un problème en Afrique, et particulièrement au Burkina Faso. Par exemple, nos politiciens, bon, ceux qui nous dirigent, bon, ceux qui doivent prendre les grandes décisions, ce sont des politiciens. Ils disent, quand la chose les arrange, ils n'ont pas de souci à faire. Mais quand ça les arrange pas, ils ont un souci. Moi, je crois que de la manière que je n'étais pas né au temps de Thomas Sankara, de la manière que Thomas Sankara a imposé notre tenue dans la paix façon d'Afani, là, moi, je crois qu'on peut imposer ça.
Tout
par exemple, on peut prendre à partir de 2024 qu'on essaie, comme vous l'avez dit, on essaie de recruter certains qui parlent typiquement que la langue morée. Et par exemple, on peut diviser même les. Par exemple, bon, mon idée me vient en tête. On peut diviser le Burkina en trois parties. Par exemple, on peut prendre le centre, parce qu'on sait que le centre, c'est le Mossi. Donc, on peut recruter des enseignants là-bas, par exemple, qui parlent la langue morée très bien, qui parlent vers chez nous. Nous, on est un peu à l'ouest. Mmh. Là-bas, c'est la langue grossi qui domine. On peut mettre des Mossi là-bas qui enseignent la langue morée et des grossi qui viennent au centre, qui enseignent la langue grossi au centre. Moi, je crois qu'avec ce mélange, et au nord, c'est les trucs qui sont là-bas, c'est la langue fouillée. On peut essayer de continuer maintenant de mettre tout ensemble. Maintenant, on voit. Voilà, quelle est la langue la plus parlée? Maintenant, on peut discuter ça dans les. Mais je crois qu'avec les politiciens, c'est compliqué. Ils préfèrent parler. Et pendant les campagnes, ils préfèrent parler en langue morée, en langue bula, voilà, pour attirer les partisans.
Mais exactement.
Ils parlent que le français. C'est dommage.
Oui. Voilà, merci bien Charles Bazema. On va prendre d'autres auditeurs. Il y a Christian Dirabé qui attend depuis un certain moment. Christian, salut et bienvenue.
Bonsoir à tous nos auditeurs.
Voilà, merci d'être parmi nous. Alors, pour parler des langues maternelles, nous avons vu votre témoignage envoyé sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous avez dit que votre femme et vous-même, vous êtes de deux ethnies différentes et vos enfants parlent plusieurs langues. Comment est-ce que vous avez réussi à inculquer cela aux enfants à la maison? Parler plusieurs langues, ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette capacité, hein, Christian Dirabé.
Oui, c'est d'abord une richesse. Avec ma femme, moi, je parle avec mes enfants en Gambaye. Ma femme parle en langue maternelle. Donc, les enfants sont obligés de parler les deux langues, en plus la langue de la localité et d'autres langues où les enfants jouent avec les enfants en dehors de la maison, soit avec les voisins. Donc, les enfants parlent plusieurs langues à la fois.
Mais et comment est-ce que vous avez réussi cela? Vous parliez, la maman, elle parlait sa langue à la maison pour que les enfants captent. Vous aussi, vous parliez votre langue. Comment vous avez réussi à apprendre ces deux langues aux enfants, étant donné que la maman et vous-même, vous ne parlez pas la même langue maternelle?
Oui, mais comme forcément, quand l'enfant doit parler la langue maternelle, donc les deux langues maternelles, les enfants ont commencé à parler. Étant petit, lors de nos entretiens et nos communications, parfois la maman parle en langue maternelle et les enfants répondent en arabe. Moi, je parle en gambaye, les enfants répondent en français. Donc,
vous utilisez plusieurs langues pour communiquer à la maison?
Oui, plusieurs langues pour communiquer à la maison.
Évidemment, c'est une richesse pour ces enfants. Même si ce ne sont pas des langues qu'on parle, qu'on écrit à l'école ou dans les milieux professionnels.
Oui, c'est une langue qu'on parle seulement à la maison, dans le quartier, avec les parents.
Très important, en effet. Merci beaucoup, Christian Dirabé. Il faut dire que la ligne n'est pas très bonne. On espère vous avoir demain. Essayons d'avoir maintenant Archiduc Théodore, qui est au Tchad aussi. Salut, Archiduc.
Ouais, bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde. Je suis joyeux d'être aujourd'hui avec vous parce que c'est mon jour de naissance et je suis vraiment fier d'être en direct sur la VOA.
Très bien, Archiduc Théodore, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vous avez aussi les vœux de Georges Léonard Sagnon qui réalise merci, cette émission aujourd'hui. Merci d'être un fidèle auditeur de VOA et surtout de cette émission à votre avis. Alors, aujourd'hui, on parle de langues maternelles. Hier, c'était la journée internationale consacrée à ces langues-là. Ce sont des langues qui sont... Il y a plusieurs langues qui sont même en train de disparaître, qui sont de moins en moins pratiquées. Qu'est-ce qui explique cela, Archiduc?
Oui, la disparition de ces plusieurs langues-là est en fonction de leur utilisation. Parce qu'une langue, quand elle existe et qu'elle n'est pas utilisée à une certaine période, cette langue a tendance de disparaître. Chez moi, par exemple, nous parlons au moins 4 langues. Mes enfants, à la naissance, jusqu'à une certaine période, j'ai décidé qu'ils apprennent à parler la langue mongole, qui est la langue de leur maman. Moi, qui suis un goulet, je me suis dit, mais arrivé à un certain âge, les enfants peuvent aussi parler et ajouter à ces deux langues. Il y a l'arabe, le français et probablement l'anglais aussi. Donc, l'utilité d'une langue, lorsqu'elle n'est pas fréquente, cette langue-là a trait à disparaître au profit des autres qui sont beaucoup plus utiles.
Alors, vos enfants parlent plusieurs langues. C'est ce que je demandais d'ailleurs à votre compatriote. Quelles sont les techniques que vous utilisez? Vous les envoyez au village? Vous faites comment? Ça se passe comment pour apprendre autant de langues, Archiduc Théodore?
Oui, naturellement, grandissant avec leur mère, justement, les enfants apprennent d'ores et déjà la langue de leur mère. Mais maintenant, ma langue, c'est un défi pour eux parce que quand bien même qu'ils maîtrisent la langue de leur mère, mais moi, je m'exprime, je cause avec eux, avec ma langue maternelle. Donc, ils ont l'obligation de fournir des efforts pour comprendre ma langue-là et répondre aussi. Et la langue française, et l'anglais ou l'arabe, bon, comme ils sont à l'école, généralement au Tchad, les langues officielles sont le français et l'arabe. Donc à l'école, ils fournissent l'effort de s'exprimer en cette langue-là comme les autres. Et l'arabe au quartier, comme on l'utilise pour acheter, par exemple, le pain, il faudrait que l'enfant fasse l'effort pour parler l'arabe avec le boutiquier, pour que l'échange soit fluide. Donc, c'est l'effort que les enfants fournissent. Et aussi, ajuster à cela, les vacances, par exemple, j'envoie mes enfants vers mes parents afin que mes enfants fassent l'effort de parler la langue, ma langue maternelle ou le français. Moi, mes parents parlent le français ou la langue maternelle. Donc, les enfants, étant avec mes parents, font l'effort de parler. Et lorsque ces enfants reviennent des vacances, le niveau est un peu élevé. Et l'anglais, j'ai des vidéos, j'ai des cours
qui permettent aux enfants d'apprendre ces langues-là. Merci, Christian Dirabé, Archiduc Théodore. Malheureusement, on s'achemine vers la fin de l'émission. On va d'abord écouter Alphonse Mbouaki, un autre fidèle auditeur, qui nous a envoyé un commentaire sur le débat du jour. On l'écoute rapidement.
Alphonse Bouakida, à votre avis, le bébé est un polyglotte en puissance. Dès ses premiers mois, votre bébé est potentiellement polyglotte. Il peut percevoir les sons de différentes langues et pourrait donc apprendre n'importe quelle langue. Pour peu qu'on la lui parle, si un bébé a la chance de naître dans une famille bilingue, il est recommandé de l'exposer aux deux langues de ses parents puisqu'il a la capacité de les développer naturellement. Cependant, pour que l'acquisition de ces deux langues soit facilitée, il est important que chaque parent s'adresse à son bébé dans sa langue maternelle. En effet, le meilleur moyen pour qu'un bébé apprenne correctement une langue, c'est qu'elle lui soit transmise par une personne qui la maîtrise bien. Et il est préférable qu'il ait un référent stable pour chaque langue. C'est ainsi qu'un bébé peut devenir naturellement bilingue.
Merci bien, Archiduc Théodore, de nous avoir envoyé votre commentaire sur le numéro WhatsApp de l'émission. Et c'est d'ailleurs avec vous un terme que nous mettons un terme à cette édition de À Votre Avis. Merci à tous d'avoir participé. L'émission est disponible sur voaafrique.com. Mouhamadou Oumfa, je vous remercie, ainsi que Georges Léonard Sagno, qui assurait la réalisation de cette émission. Au revoir.